Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. De nouvelles voies maritimes s'ouvrent au pôle Nord et elles attisent les appétits des grandes puissances. Cette route entre l'Europe et l'Asie contourne désormais la Russie par le Nord. Un trajet jusqu'à 2 semaines plus court que le traditionnel itinéraire empruntant le canal de Suez. Benoît Derrier.
C'est un porte-conteneur danois rempli de poissons congelés et de produits électroniques sud-coréens qui est arrivé jeudi 27 septembre dans le port de Saint-Pétersbourg, en provenance de Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. L'immense vaisseau flambant neuf, baptisé Ventamersk, long de 200 mètres et pouvant transporter jusqu'à 3600 conteneurs, a effectué le trajet en tout juste 5 semaines, soit 2 de moins que par le traditionnel itinéraire empruntant le canal de Suez. C'est une première pour un bateau de cette taille. Mais l'armateur danois Maersk, première compagnie maritime mondiale, précise qu'il s'agissait d'un test unique permettant d'étudier la faisabilité du trajet et de recueillir des données scientifiques. Quoi qu'il en soit, la Russie prévoit d'investir dans les 2 prochaines années plus de 500 millions d'euros dans son développement en construisant des ports et des brise-glaces nucléaires pour escorter les bateaux. Car outre le détroit de Bering entre Russie et Amérique du Nord, cette route passe par la péninsule de Yamal en Sibérie occidentale qui abrite les plus importantes réserves de gaz russe. Depuis 2017, le français Total y achemine des méthaniers jusqu'en Europe occidentale. Outre le fait d'être plus court, ce nouvel itinéraire maritime présente l'avantage d'un risque réduit de piraterie. Mais les défenseurs de l'environnement craignent des marées noires dans un écosystème encore préservé. Jusqu'à présent, l'itinéraire qui longe les côtes septentrionales de la Russie n'était libéré des glaces que quelques semaines par an. Mais cette période tend à s'allonger de manière significative avec la fonte des glaces, allant aujourd'hui de juillet à octobre. En quelques décennies, la calotte glaciaire a perdu près de la moitié de sa surface et il a fait presque 30 degrés au nord de la Sibérie cet été. Certains experts estiment que ce nouveau couloir maritime pourrait être praticable 365 jours par an dès 2050.
C'est un véritable fléau qui pollue en plein cœur de la Méditerranée. L'île de Malte est saturée de voitures. Désormais, 20% des ménages possèdent plus de 3 véhicules. Les embouteillages monstres grèvent le PIB de 200 millions d'euros par an. Les autorités, qui ne sont pas à une contradiction près, cherchent à proposer des solutions alternatives, mais continuent d'investir dans les infrastructures routières, au grand dam des écologistes et des rares cyclistes. Le reportage de Laurent Berthaud.
Sur les routes et dans les rues maltaises, la voiture est reine. Dans la vieille ville de La Valette, en dehors de la grande rue piétonne, les trottoirs sont encombrés de véhicules, obligeant les piétons à marcher au milieu de la rue et à s'effacer au passage des voitures. Et s'il vient l'idée de circuler à vélo sur les grands axes, mieux vaut prendre ses précautions, à l'image d'Aga, originaire de Pologne, qui a déjà failli se faire renverser plusieurs fois.
That's why I'm wearing, Je porte une veste jaune fluo, des lumières sur mes chaussures, sur mon vélo, sur mon sac à dos. Je ressemble à un sapin de Noël. Et pourtant, il y a des automobilistes qui ne me voient pas.
Le cœur de la capitale maltaise est traversé de larges avenues à 2 ou 3 voies, des cicatrices que les piétons franchissent difficilement et que les cyclistes doivent éviter à tout prix. Tout espoir n'est pas perdu pour autant. Pour Suzanne, venue des Pays-Bas, il n'était pas question d'abandonner son vélo.
Parfois, on doit rouler au milieu des voitures sur les grands axes, mais on essaie d'emprunter des rues parallèles, un peu moins fréquentées. On passe beaucoup de temps à étudier le plan de la ville pour trouver le bon chemin. Ensuite, on s'échange les trajets, les raccourcis entre nous, on signale les rues plus tranquilles pour que ce soit utile à tout le monde.
Des cyclistes activistes qui se retrouvent une fois par mois à l'appel du Bicycle Advocacy Group. L'idée est d'accueillir les néophytes pour les rassurer et leur montrer justement les routes alternatives. L'association tente aussi de faire pression auprès des autorités pour obtenir de meilleures conditions de circulation. Les 4000 cyclistes maltais représentent moins de 1% dans la part des déplacements, même si leur nombre s'accroît petit à petit. Matthew Faugia est l'un des animateurs du groupe.
Même s'il y a un peu plus de cyclistes sur les routes, désormais, les infrastructures, elles, ne suivent pas. Les rares pistes qui existent sont mal conçues. Elles s'arrêtent brusquement, ne permettent pas de tourner, elles ne sont pas du tout adaptées. Du coup, les cyclistes se retrouvent au milieu des voitures. En fait, les gens aimeraient passer au vélo, mais ils ont peur de finir à l'hôpital, comme cela arrive parfois. Alors finalement, ils continuent à prendre leur voiture.
Réduire la dépendance à la voiture, c'est toute l'ambition du plan que vient de lancer l'Autorité nationale des transports. Avec le soutien financier de l'Europe, le plan SMITH, acronyme pour Plateforme Maltaise de Transport Multimodal Durable. L'idée est de créer 45 hubs sur toute l'île pour encourager l'usage de modes de transport alternatifs. Peter Paul Barbara, responsable de l'unité de la mobilité durable à Transport Malta.
Sur ces plateformes, nous allons proposer plusieurs services. Par exemple, dans la vieille ville, au terminal du ferry, nous allons mettre en place de nouveaux modes de correspondance. Transport en commun avec les bus, vélo, et plus tard scooter en libre-service, voiture en autopartage, et nous allons aussi flécher les itinéraires piétons. On ne demande pas aux gens de ne pas prendre leur voiture, mais de faire des choix judicieux en utilisant des modes de transport adaptés.
Pour autant, lorsqu'on circule sur l'île, on ne peut manquer de voir les nombreux chantiers de rénovation et d'élargissement des routes existantes, de grandes avenues à deux fois deux voies qui passent parfois littéralement au ras des immeubles. Le plan de développement des transports 2020-2025 fait lui la part belle à de nouvelles infrastructures routières dans l'espoir d'endiguer le flot de voitures. Une aberration pour l'écologiste Carmel Cacopardo, responsable du Parti des Verts.
En réalisant et en planifiant des ponts routiers, des passages souterrains, des grandes avenues, l'État envoie un message clair. Les routes sont faites pour les voitures individuelles, alors que selon moi, les routes devraient être utilisées pour rendre service aux gens, avec de nombreux transports en commun. Les mesures proposées dans ce plan national des transports sont bien, mais si dans le même temps, vous encouragez la voiture individuelle, ça ne sert à rien.
Si les bus risquent fort de pâtir des embouteillages, un autre transport en commun devrait se développer fortement dans les années à venir, le ferry. Rien de plus logique pour un pays entouré d'eau. Transport Malta prévoit l'ouverture de nouveaux terminaux et de nouvelles lignes qui devraient permettre à plus de Maltais de se déplacer sans voiture entre les différentes villes de l'île ou les différents quartiers de la capitale.
Depuis 10 ans, la sécurité routière a fait des progrès spectaculaires en Lituanie, mais la mortalité des piétons et des cyclistes reste l'une des plus élevées. Près de 40% des décès sont liés à la route, contre 17% seulement en Europe. Le gouvernement lituanien vient donc d'adopter de nouvelles règles pour les piétons et il veut faire de la Suède, le pays le plus sûr d'Europe, son modèle en matière de circulation. Marielle Vituro.
Durant les mois d'automne, la tournée de Yanné Lapostière n'a rien d'habituel. En plus du courrier, elle distribue des réflecteurs de sécurité aux habitants. Cette bande jaune fluo qui s'enroule autour du bras est le gage d'être vu des automobilistes. En dehors des grandes villes, les Lituaniens marchent beaucoup. Yanné le constate tous les jours.
Quand je roule sur les petites routes de campagne, il y a toujours quelqu'un qui surgit du bas-côté. Surtout à l'automne, quand les jours raccourcissent, je les aperçois au dernier moment. Je me fais des frayeurs, je descends de ma voiture, mais au final, c'est toujours le marcheur qui me sermonne.
Avez-vous votre réflecteur? C'est toujours la première question que Yanné pose aux habitants de Balcerishkes, un petit village à 50 km de la capitale. Sofia, une ancienne postière, est une convaincue.
J'en ai toujours plusieurs qui pendent dans l'entrée et quand je sors, je n'oublie pas d'en prendre un.
Mais Yanné reste sceptique.
Il faut toujours les convaincre d'en porter. Ils me disent, je reste juste dans mes champs, mais pour y aller, il faut faire un kilomètre par là, puis un autre par là. Quand on avait parlé d'instaurer des amendes, tout le monde en mettait.
mais maintenant, la pression est retombée.
Selon les statistiques, les réflecteurs protègent à 100% des accidents. Les faire distribuer par les postiers ou les travailleurs sociaux est un gage de toucher toutes les couches de la population. Mais ainsi, tout repose sur la responsabilité de l'usager, ce qui exaspère Valentinas. À Balcerichkes, il est l'un des rares à travailler et à être motorisé.
Quand on veut aller dans la grande ville, à tout juste 2 km, il n'y a même pas de bas-côté. On est obligé de marcher sur la route. La plupart des gens qui habitent ici sont des retraités, presque aucun n'a de voiture. Les villes ont tout, des trottoirs, des pistes cyclables, et nous, rien du tout.
Dans une grande ville comme Vilnius, les infrastructures manquent aussi. Marius Markevicius, le fondateur d'une association de défense des piétons, n'a pas besoin d'aller bien loin pour le prouver.
Là, nous sommes près de la mairie. Le trottoir est large, une dizaine de mètres. Plus loin, il se réduit à une petite bande, alors que nous avons devant nous une artère à 4 voies. C'est bien là le problème. Les autorités déclarent une chose, mais en font une autre.
En 2017, 68 piétons ont été tués sur les routes lituaniennes. Ce nombre a été divisé par 4 en 10 ans grâce à des contrôles plus répressifs et une amélioration des infrastructures. Mais le taux de mortalité des piétons est toujours 2 fois plus élevé que la moyenne européenne. Comment rendre les routes encore plus sûres? Aujourd'hui, c'est le principe suédois qui prévaut. La responsabilité incombe à celui qui conçoit les infrastructures. Vidmantas Pumputis est monsieur sécurité routière au ministère des Transports.
La reconstruction de tous les passages piétons dangereux a été budgétisée et elle va commencer cette année. Les rendre plus sûrs signifie par exemple installer un éclairage. La situation devrait nettement s'améliorer puisqu'un quart des piétons tués meurt en traversant la route sur un passage protégé.
Mais le contrôle, avec l'installation de plus de 600 radars prochainement et la responsabilisation des piétons, reste toujours les priorités pour endiguer l'hécatombe. Désormais, qui traversera la rue en téléphonant peut être passible d'une amende allant jusqu'à 40 euros. Une aberration pour Marius Markevicius.
À partir de maintenant, si je parle au téléphone dans la rue, même si j'ai le feu vert pour moi, je dois dire à mon interlocuteur « Attends, je traverse, on reparlera tout de suite après. » Les piétons sont désormais responsables si un engin de 2 tonnes leur fonce dessus. C'est à eux de regarder autour, de faire plus attention. Pour moi, les responsabilités sont inversées.
Au ministère, on reconnaît que plus qu'à punir, cette mesure sert surtout à faire comprendre les dangers du monde virtuel sur une route, elle, bien réelle, et à ainsi réduire encore plus le nombre de décès.
Lui, on l'accuse carrément d'avoir construit un empire de béton en Turquie. Le président Erdogan a en effet très largement bâti la croissance économique des 15 dernières années avec l'immobilier et les méga-projets au détriment de l'environnement. Les difficultés de l'économie turque pourraient toutefois le forcer à ralentir la cadence. Anand Lauer nous appelle d'Istanbul.
Samedi 17 novembre, Recep Tayyip Erdogan inaugurait à Istanbul 5 nouveaux espaces verts, officiellement baptisés « Jardins de la Nation ». Les premiers d'une longue série, a promis le président turc, qui honorait ainsi une promesse de campagne. Plus de 15 ans après son arrivée au pouvoir, celui qui a aussi été maire d'Istanbul essaierait-il de se racheter une bonne conduite environnementale? Une chose est sûre, Recep Tayyip Erdogan n'a pas peur des contradictions. À ses côtés, lors de la cérémonie, son ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, qui dit se donner pour mission d'empêcher l'édification de bâtiments trop élevés dans la mégapole stambouliote. Ironique, quand on sait que ce ministre nommé il y a 4 mois était jusqu'alors PDG de l'un des principaux groupes immobiliers de Turquie, promoteur d'innombrables tours de béton à travers le pays. Il y a un an, Tayyip Erdogan reconnaissait lui-même, dans un étrange élan de sincérité, avoir trahi Istanbul en promouvant depuis 25 ans une urbanisation incontrôlée. Le président turc a-t-il pour autant fait marche arrière sur ces méga-projets qui amputent peu à peu la ville de ses derniers carrés de nature? Rien n'est moins sûr. Le président inaugurait ainsi le nouvel aéroport d'Istanbul, futur plus grand du monde, construit sur une surface de 76 km² dans les forêts du nord de la ville. Les défenseurs de l'environnement s'accrochent à un espoir, entre guillemets car il n'a rien de réjouissant, la crise économique qui menace la Turquie. En septembre, par mesure d'économie, Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il n'envisageait pas de nouveaux investissements majeurs. Les autorités n'ont pas encore précisé quels projets seraient annulés ou retardés, mais cela n'inclura pas Canal Istanbul, un projet titanesque de creusement d'un deuxième Bosphore dans l'ouest d'Istanbul, autour duquel viendrait se dresser rien de moins qu'une ville nouvelle.
«
Quand ce n'est pas le bétonnage excessif ou la voiture, ce sont les mégots de cigarettes qui défigurent nos rues. Depuis l'interdiction de fumer qui s'est généralisée un peu partout dans les lieux publics en Europe, les fumeurs jettent leurs mégots sur les trottoirs, à tel point que la région de Bruxelles demande aux industriels du tabac de régler les frais liés à la collecte des déchets. Johanna Hochstein.
200 000 euros, c'est le montant de la facture envoyée par la région bruxelloise à l'industrie du tabac. Un montant qui correspond en fait au budget alloué par les autorités pour faciliter la collecte des mégots. Des cendriers de poche ont par exemple été distribués lors de festivals de musique. Un millier d'étés noirs à cigarettes ont également été installés sur les poubelles publiques pour écraser votre mégot avant de le jeter dans la poubelle. Des actions qui ont un coût et qui doit être supportées par l'industrie du tabac, selon la secrétaire d'État bruxelloise chargée de la propreté publique, Fadila Lanane. D'autant plus que l'industrie du tabac le fait déjà dans les deux autres régions du pays. En Flandre, par exemple, les autorités ont demandé aux fabricants de cigarettes de financer des cendriers de rue. Demande acceptée. C'est un véritable fléau qu'il faut éradiquer, insiste-t-on à la région bruxelloise. Ce fléau, ce sont les quelques 10 millions de mégots jetés chaque jour sur les trottoirs en Belgique. Des déchets particulièrement difficiles à ramasser en raison de leur petite taille, qui se coincent entre les pavés et qui mettent des années à se décomposer. Il est donc normal d'envoyer la facture aux fabricants de cigarettes, explique-t-on ici. Mais on rappelle que les particuliers peuvent également être mis à contribution. Ceux qui jettent leurs mégots par terre et qui sont pris en flagrant délit sont passibles d'une amende de 50 euros, de l'argent qui permet aussi de financer les actions de propreté de la ville.
Music. Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors Vincent part en Estonie aujourd'hui et vous nous faites découvrir une association heureuse entre folklore et musique électro.
Eh oui, association de musiciens qui ont pour principal point commun une certaine exigence dans l'approche de leur pratique. Maria Nout, d'abord, est une chanteuse et violoniste de formation classique qui s'est beaucoup intéressée aux musiques folkloriques estoniennes et a déjà publié 2 disques où elle les revisite brillamment. Et aujourd'hui, elle s'associe avec Hendrik Kaljujärv qui, sous le nom de Room, évolue dans le champ des musiques électroniques et expérimentales. Il a notamment travaillé comme ingénieur du son et designer pour un théâtre avant-gardiste de Tallinn. La collaboration entre Maria Nout et Room fait des merveilles au fil des 9 plages du très beau Munduja, minimaliste et rêveuse.
Et on se quitte sur les sons cristallins estoniens de Marianut et Rune. Merci de nous avoir suivis pour cette rediffusion de Noël. À la mise en onde et à la réalisation, on retrouve bien sûr Françoise Grelot. À demain.